Europe 1.
Nous accueillons maintenant Giuseppe. Bonsoir Giuseppe.
Bonsoir Olivier.
Je prononce bien Giuseppe.
Parfait, franchement. Bon.
Vous êtes plutôt Inter ou Milano parce que vous avez vu que l'Inter vient d'être sacré champion.
Aïe, 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 je ne suis pas du tout football.
Pas du tout football. Bon, bah écoutez,
non, pas du tout.
On ne sait jamais. Avec un nom comme ça, il y avait de grandes chances que vous soyez un peu football, puisque comme tout bon Italien qui se respecte, il y a souvent, souvent des férus de foot. Mais bon.
Ah non, moi je suis tennis. Voilà.
Tennis, d'accord.
Tennis. Bon. Et on a vécu, je pense, une très belle époque avec les champions récents maintenant qui s'en vont tout doucement, mais je reste fidèle au tennis.
Champion italien ? Il y a beaucoup de champions italiens.
Alors, champion italien, alors il y a apparemment actuellement un Italien de Bolzano, donc un germanophone qui est en train de monter, Sinner ou quelque chose comme ça. On a été privé de champion italien quand même pendant, je dirais, une quarantaine d'années tout de même. Après Adriano Panatta, c'est vraiment tombé dans le vide. Oui, oui.
Je devine un petit accent, alors belge ou
belge.
Suisse ?
Belge.
Belge, c'est ça.
Alors, je suis belge, même si je ne sais pas pourquoi beaucoup de Belges me disent que j'ai un accent français. Probablement parce que j'habite à l'ouest de la Belgique, à 30 km de la France.
Il est très peu prononcé, votre petit accent belge, mais comme je suis moi-même à moitié belge, je l'ai deviné.
Voilà, vous avez tout à fait raison. Donc pour ceux qui connaissent, région de Charleroi, à 40 km à l'est de Maubeuge.
Oui, donc pas loin de la France.
C'est ça.
Qu'est-ce qui vous amène, Giuseppe ?
Ah, alors tout d'abord, avant de lancer mon intervention, je voudrais saluer quelqu'un qui je tiens énormément, qui est ma compagne Julia, et qui a la particularité d'habiter en Bulgarie. Et ça fait 2 ans qu'on se connaît, et c'est franchement le bonheur. Et elle nous écoute en direct, puisqu'elle est parfaite francophone, elle est traductrice.
D'accord.
Donc je la salue, et je lui fais un gros bisou, et je lui dis que je l'aime. Voilà.
Très bien. Ben, c'est entendu, Julia, vous avez bien de la chance.
moi aussi.
Très bien. Donc, de quoi voulez-vous me parler, Giuseppe ?
Oui. Alors, moi, j'aurais voulu réagir suite à une intervention que j'ai entendue il y a 2 semaines à propos de l'euthanasie, puisque c'est un sujet qui actuellement fait rage dans votre pays, puisque apparemment on est en train de voter la loi. Et bon, l'euthanasie existe en Belgique depuis pas mal de temps.
Oui.
Donc, je dirais que d'un point de vue législatif, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. En gros, moi, j'estime que c'est pas mal. Mais voilà, un jour de décembre 2021 et quelques jours avant Noël, ma maman me téléphone. Elle était hospitalisée pour la énième fois, des problèmes de cœur qui s'aggravaient et elle m'annonce, on va m'euthanasier. Bon. Alors vous imaginez le cadeau de Noël.
Oui.
Mais ce qui m'a surpris... C'est ma réponse. Je lui ai dit, écoute, je comprends tout à fait ta décision. Je suppose qu'il y a eu effectivement une commission de 3 médecins qui a examiné. Tu n'es pas déficiente. Je comprends tout à fait. Et si je peux te rassurer, si je pouvais le faire, eh bien, je crois que j'appuierais moi-même sur la seringue. Parce qu'au fond, quand on voit une personne dépérir et que vraiment c'est insoluble médicalement, et que cette personne souffre physiquement et psychologiquement, c'est vraiment très difficile de dire à une personne « Oui, je ne comprends pas ta décision, c'est scandaleux, reste avec nous », des petites choses comme ça.
Mm-hmm.
Bon,
votre maman dépérissait déjà au moment...
Oui. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un quart d'heure avant qu'on ait pratiqué l'euthanasie, quelques jours plus tard, elle avait fait une sorte de... Pas vraiment d'arrêt cardiaque, mais bon, on sentait que c'était la fin objectivement. Elle n'arrivait plus à respirer, le corps était rempli d'eau.
Il y avait une maladie particulière ? Il y avait un cancer ou...
Alors, c'était un problème du myocarde, du cœur.
Mmh. D'accord.
Et donc son médecin était un excellent médecin et on était quand même parti voir un ami qui est professeur d'université et qui m'a dit « ça ne sert à rien de venir me voir parce que le médecin qui vous traite, c'est celui qui m'a formé ». Et son diagnostic est tout à fait clair, même une intervention ne pourrait réussir qu'à 60%, ce qui veut dire que vous pourriez rester sur le billard 4 chances sur 10.
Oui, donc,
donc ils l'ont soulagé, mais en fait elle l'étouffait, si vous voulez, elle se noyait de l'intérieur.
Oui. Donc une prise de risque inconsidérée tout de même en vue d'une intervention. Mais vous avez eu raison de nous appeler. On va continuer d'échanger avec vous, cher Giuseppe. On va laisser passer l'info sur Europe 1
tout
et puis évoquer bien évidemment cette question de l'euthanasie qui ne fait pas rage mais anime les débats dans notre pays en ce moment. On se retrouve tout de suite, Giuseppe. À tout de suite. Il est 23h passées de 6 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes bien sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez nous écrire au 739-21 suivi du mot nuit, écran lettre majuscule suivi d'un espace. Vous pouvez aussi écrire vos SMS au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettre majuscule suivi d'un espace. Et remarquez, comme je viens de le dire, deux fois de suite. C'est quand même fou. Ça fait partie des, vous voyez, des choses dont je vous parle parfois, des troubles de l'attention qui peuvent m'amener à appeler Giuseppe, par exemple, d'un seul coup, Patrick. Alors que Giuseppe est bien là et qu'il est toujours bien sagement en attente. Vous êtes là, Giuseppe ?
Tout à fait, Olivier.
Voilà. Alors, vous nous parliez de votre maman, qui ne voulait pas risquer une intervention, et on comprend pourquoi, avec des poumons qui étaient noyés par de l'eau, en fait. Hein.
Écoutez, moi, je ne suis pas médecin, donc je pense que d'autres seraient plus qualifiés que moi. Apparemment, c'est le cœur qui ne pompant pas bien provoquait cette pathologie.
D'accord. Bon, en tout cas, pas d'intervention, pas le risque d'une intervention pour votre maman.
Non.
Ce qui fait que elle vous dit qu'elle va se faire euthanasier. C'est un peu violent, en fait. Vous voyez, la manière de dire « je vais me faire euthanasier », ça a dû vous choquer un peu, non ?
Alors, ce n'est pas tout à fait ça qui m'a choqué, mais ça, je l'expliquerai après. Vous devez savoir que, en fait, bon, j'ai moi-même une formation de philosophe à la base.
D'accord.
Et donc, pour l'anecdote, si vous voulez, quand j'étais donc en deuxième candidature, ce qu'on appelle en France le deuxième bachelier, donc nous avions un cours de droit naturel, qui est un petit peu, si vous voulez, l'interstice entre la philosophie et le droit. Et avec quatre autres étudiants, on avait proposé au professeur donc la diffusion d'un film qui est pas du tout connu, un film qui mettait en scène Raquel Welch, qui s'appelle en anglais « Right to Die » et qu'on traduit en français par « Choisir sa mort » ou « Le droit de mourir ». Et donc c'était un film qui avait été diffusé dans le cadre de l'écran témoin, qui était l'équivalent belge à l'époque des dossiers de l'écran.
D'accord.
Et donc on avait donc décidé avec ce professeur de diffuser ce film dans un auditoire, donc dans un amphithéâtre, de manière tout à fait publique. Donc tout le monde pouvait venir voir le film, c'était un mardi après-midi. Et c'était ensuite suivi d'un débat animé par les cinq étudiants, chacun présentant un axe différent de l'euthanasie. Donc l'historique, le scientifique, le philosophique, le théologique, le psychologique, le juridique, etc. Et dans ce film, Raquel Welch, qui est atteinte d'un cancer, dans un cadre tout à fait hollywoodien, demande à se faire euthanasier. Et à la fin du film, et c'est ça qui est troublant, on voit tous ses amis qui, un après l'autre, défilent pour lui dire au revoir. Mais chacun est pris dans un plan où on ne voit que le visage, si vous voulez. Donc c'est très hollywoodien, c'est quand même très marquant. Et je pense que ma maman, sans le vouloir, avait été très marquée par ce film, si bien que le véritable choc, si je peux me permettre de le dire, c'est quand elle m'a demandé d'organiser, d'inviter ses amis pour le 3 janvier. Donc moi, j'ai reçu l'annonce vers le 21-22 décembre, et donc les médecins avaient décidé de l'euthanasier le 3 janvier. Pour lui laisser une semaine, je dirais, on dirait la semaine du condamné, où on l'avait mise en chambre unique, on pouvait la visiter jour et nuit, elle pouvait boire et manger tout ce qu'elle voulait, et je peux vous dire qu'on a fait la fête, homard, champagne et tout ce qui va avec. Mais alors le jour et l'heure de l'euthanasie, ça a été quelque chose de traumatisant, je crois, pour les gens qui ont été invités à venir assister à ça. Je ne sais pas si vous imaginez une petite chambre, avec les deux médecins qui sont très gênés de devoir commettre l'acte, les amis les plus proches, dont une personne qui n'a pas pu rentrer dans la chambre, une autre personne qui n'a pas pu regarder, qui regardait par la fenêtre et qui pleurait comme une madeleine, et puis tous ses amis qui lui tenaient la main. Et alors, moi, j'avais décidé, bon, de commun accord avec ma maman, de me tenir derrière le médecin pour un petit peu, si vous voulez, valoriser la parole que j'avais donnée et qui était, si je pouvais moi-même appuyer sur la seringue, je le ferais dans un acte de charité profonde. Eh bien, je peux vous dire qu'après ça, les gens ont quitté la chambre, mais pas dire sans dire au revoir, mais c'était presque ça.
Oui.
Et pour la plupart, j'ai plus jamais eu de nouvelles et les gens m'ont dit, on ne vient pas à l'enterrement parce qu'on est venu assister à l'euthanasie.
Et pourquoi, en fait, mon coup de téléphone... pourquoi ? Qu'est-ce que ça a à voir, en fait ?
Je ne sais pas. Je pense que le choc a été terrible.
D'accord.
Mais c'est pour ça que je vous téléphone, en fait. Moi, je fais confiance aux parlementaires pour dire, bon, je pense qu'une loi, elle est toujours imparfaite, mais une bonne loi sera votée, je pense. Et je pense que si on s'appuie sur les modèles comme la Belgique, je pense qu'on aura des résultats corrects. Autre chose est, quand on ignore le traumatisme psychologique que ça peut causer chez des personnes. Parce que je pense que les gens s'imaginent que l'euthanasie, c'est quoi ? Bon, c'est un médecin qui arrête une machine ou qui appuie sur la seringue, et puis c'est tout, voilà. Mais ce n'est pas ça du tout. En Belgique, on autorise tout à fait des personnes à venir assister à ça. Mais imaginez quelqu'un qui rentre chez lui, et la scène est sordide, et qui aperçoit sa compagne ou son frère ou qui que ce soit pendu.
Oui.
C'est quand même traumatisant.
C'est traumatisant, mais... d'accord,
l'euthanasie, il y a peut-être une différence, c'est qu'on choisit d'assister ou pas.
Bah, c'est une grande différence quand même, tu sais.
Une grande différence, bah, oui. Mais j'ai bien vu que la plupart des gens n'étaient pas vraiment préparés à ça.
Ça oui,
je pense qu'il y en a qui sont la moitié venus pour faire plaisir, je suis désolé de dire ça. Et alors, ce qui m'a vraiment... moi, poser question, c'est ce côté, je vais dire, christique. Bon, il faut savoir que ma maman a travaillé pendant 33 ans comme sacristine, donc c'est la personne qui, dans les églises, prépare les cérémonies, le matériel. Et je crois que c'est une personne qui a toujours donné de son énergie pour les autres, mais je lui ai toujours dit, on dirait que tu attends une médaille ou une statue, parce qu'elle attendait toujours un contre-retour. Et je crois qu'elle a voulu se mettre un petit peu en scène, je dirais, oui, comme Jésus sur la croix. Voilà. Je crois que ça a vraiment troublé beaucoup de monde. Hein.
Ben, je pense que, vous voyez, on en entend parler comme ça à la radio. Alors nous, en France, nous entendons parler de la loi qui avance, des uns qui sont pour, des autres qui sont contre. Finalement, ce sont des mots, souvent.
Oui.
Lorsqu'on se retrouve confronté à la mort, et à la fin de vie de quelqu'un qu'on a connu, que l'on a fréquenté, d'une intelligence ou d'une gentillesse, en tout cas une personnalité, l'humain, il évoque plein de choses dans sa personnalité, il renvoie plein de choses. Et la mort, c'est l'arrêt de tout ça.
Oui.
On passe dans une autre dimension qui est celle du souvenir. Mais il n'y a plus de... il n'y a plus de production intellectuelle, vous voyez, il n'y a plus de production émotionnelle. Et je crois pouvoir dire que moi, je serais très impressionné de cela.
Oui.
J'ai perdu mon père dans des conditions violentes. On n'est pas préparé à cela. Je peux vous dire que j'ai été extrêmement choqué, blessé. Alors que j'ai pu le veiller ensuite et tenir même avant qu'il soit enterré, être avec lui dans la chambre mortuaire et rester de longs moments à ses côtés. Mais parce qu'on avait passé cette étape dont vous parlez, l'étape où la vie s'arrête.
Oui.
Qui est à mon avis là se joue l'aspect choquant, en tout cas l'aspect choc des choses.
Oui, moi je pense que c'est l'aspect technique qui est choquant. Parce que
l'aspect quoi ?
Technique de l'acte.
Technique, d'accord.
Alors, je vous explique. Donc, le médecin injecte d'abord une sorte de somnifère assez puissant. Donc là, aucun problème. Mais alors, il prévient les gens en disant, voilà, je vais injecter le poison et vous allez voir la personne réagir. Et c'est très impressionnant, parce que le cœur se met à accélérer et la poitrine bouge comme si le corps tentait de combattre le poison. Et ça, je vous assure que c'est très impressionnant.
Oui.
C'est-à-dire, l'idée de l'euthanasie, d'une personne qui part tranquillement, qui abrège ses souffrances, ça n'est pas du tout ça. Ce sont des secondes, mais violentes.
Très longues, non ?
Oui, ça paraît long. On a l'impression, c'est une fausse impression, on a au fond l'impression que la personne souffre. Et c'est horrible de voir ça. Mm-hmm. Et donc, je peux comprendre que des gens aient été vraiment touchés
choqués,
par ça.
Choqués,
oui. D'ailleurs, on peut parler de choc aussi dans le cadre du corps de ma maman. Mais alors, l'arrêt, je ne pense pas à l'arrêt de la vie, parce que la dernière parole qu'elle a dite, c'est très amusant, elle a dit « Je m'en vais rejoindre mon fils ».
Oui,
bon, il faut savoir que mon frère cadet est décédé il y a quelques années. Et donc, c'était un message d'espoir qu'elle laissait, au fond.
Oui, je pense aussi que dans sa tête, parce qu'on évoque ceux qui restent, ceux qui sont choqués par la démarche, mais... N'oublions pas que celui qui va mourir se prépare à ce départ, comme on se prépare à un voyage. Et je pense de même que l'aspect « je vais rejoindre mon fils » est quelque chose qui porte dans la décision. Vous voyez, et qui diminue la peur même. Parce qu'il y a quand même une partie d'inconnu, même si on part rejoindre un être ou plusieurs êtres aimés, le doute peut être là tout de même. Elle ne doutait pas.
Non, moi je l'ai trouvée très sereine et très sereine. Vous dire que les derniers 10 jours qu'on a passés ensemble, c'était peut-être les plus positifs de notre relation. On a eu une relation assez tendue pendant toute la vie. C'était assez drôle, je dois dire. Et je dirais, ce qui était drôle, c'est que quelques minutes avant l'acte, elle avait demandé à boire du champagne.
Oui.
Et alors, il y a eu une petite discussion entre des amis qui étaient venus avec du champagne français, bien sûr, et moi qui étais venu avec un crémant belge, qui est d'une très bonne qualité. Mm-hmm. Et alors, il y avait un petit peu cette tension. Et elle avait choisi le belge. Voilà, bon. Qui entre nous est produit par des Français, donc je veux dire, il n'y a pas de discussion possible. Mais vous voyez, il y avait un peu cet humour de dernière minute, quel champagne on va boire. Mm-hmm. Voilà. Et elle avait demandé au médecin de boire le champagne. Vous voyez, donc, je ne sais pas, je pense que doute, non. Non, parce
quand
que
je doute, parle de doute, peut-être...
Sur l'acte ou sur l'après-vie?
Sur le passage, en fait, toutes les questions qui peuvent nous animer de l'après, pour peu qu'on soit croyant, en fait, votre mère allait rejoindre son fils bien-aimé, m'avez-vous dit. Donc, il y a une certaine forme de croyance, quelque part, même si je ne sais pas si elle croyait en Dieu ou non, mais...
Oui.
Donc, il y a tout de même un départ pour une autre destination, là.
Oui, clairement. Mais... Elle m'avait raconté il y a une trentaine d'années, lors d'une opération, apparemment, elle avait fait un mini arrêt cardiaque. Puis elle me disait avoir vu ce tunnel, mais sans plus. Vraiment le début du tunnel, puis on l'avait ramené. Bon, il faut savoir aussi que moi, j'ai enseigné la religion catholique. Et dans le programme, on étudie avec les étudiants, notamment, tous ces témoignages de personnes qui disent avoir été dans des tunnels ou qui communiquent avec l'au-delà par des moyens électroniques. Donc, au fond, ce sont des questions qu'on a toujours discutées en famille depuis au moins 30 ans. Et pour nous, mais ça, c'est une question personnelle, nous, on a très peu de doutes sur le fait qu'il y ait quelque chose après. Voilà. Il y a probablement quelque chose, sinon tout ça serait stupide.
Vous, en tant que prof de philo, vous êtes croyant, vous aussi ?
Alors, en principe, un philosophe n'a pas à se poser de questions. Mais moi, je suis croyant.
Pourquoi un philosophe n'a pas à se poser de questions? Comment ça?
Alors, normalement, le philosophe se distingue de la science et de la religion. Donc, il ne fait pas d'expérience de laboratoire.
Il ne croit pas.
Et il ne croit pas par principe, si vous voulez. Mais il reste ouvert à toute démonstration, à toute intuition.
Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce dogme-là?
Moi, personnellement, oui. Personnellement, je...
Qu'un philosophe n'est pas censé se poser ce type de questions, c'est très... Enfin, je trouve ça très curieux.
Si, mais je veux dire, il n'a pas à affirmer les choses sans avoir un minimum d'intuition et de démonstration.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est une sorte de paradoxe. Mais disons que moi, quand je vois le nombre de témoignages, les livres, les récits de gens qui disent avoir vécu quelque chose, moi, je trouve ça quand même pertinent. Et moi, j'ai beaucoup de mal à croire qu'après ce monde, il n'y ait rien. Ce serait dommage. Ce serait une perte d'énergie, je dirais. Le monde est énergie. Donc, que ce soit énergie visible ou invisible, ça, c'est une grosse discussion. Mais je trouverais vraiment dommage que ce monde disparaisse sans qu'il n'y ait rien après. Voilà. Mmh. Donc ma conviction, mais elle est personnelle, c'est qu'il y a quelque chose.
Oui. Je la partage.
Maintenant, je n'ai jamais eu d'expérience de transcommunication, ni de voix qui me sont parvenues. Non. Par contre, l'intuition qu'on a un ange gardien ou qu'on a un destin préconçu, ça oui.
Mmh.
Oui. Et alors, puisque vous abordez la question de la religion, qui est quand même un axe fondamental, ben c'est vrai qu'après cet événement, j'ai eu l'occasion de parler avec des collègues ou des amis musulmans, catholiques, protestants, orthodoxes et athées. Et tous m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, voilà, dans notre religion, ben, sauf les athées bien sûr, l'euthanasie, c'est non. Mais
ben oui. Mmh.
Si ça avait été ma maman, ben, je crois que j'aurais agi comme vous.
Oui.
Et je crois que ça pose question.
Je crois que ça dépasse, vous voyez, la religion est quelque chose de très personnel, finalement, de très intime.
C'est ça.
Vous voyez, moi, je n'ai jamais été partisan du grand partage de mes croyances.
C'est ça.
C'est comme, je dirais, la sexualité. C'est quelque chose qui est très personnel.
Ouais.
Et donc, il n'y a pas... de belles ou de mauvaises idées autour de cela. Je comprends qu'il y ait des gens que ça interpelle, que certains autres soient choqués,
oui.
ne veuillent pas en entendre parler. Mais preuve est faite que beaucoup... Je pense que j'aurais très peur de ça, mais je suis plutôt partisan qu'on choisisse sa fin de vie. Cela me semble être... une liberté qui ne regarde, encore une fois, personne. Et ça ne regarde que Dieu et vous-même.
Exact.
Voilà. Et donc, les gens qui portent un jugement là-dessus, je trouve ça bien prétentieux encore de pouvoir porter un jugement sur tout ça. Je crois qu'il y a pas mal de gens assez limités qui n'ont pas la capacité de réfléchir pleinement à cette question-là, malheureusement.
Mais je crois que ça n'est pas une question de réfléchir. Vous savez, le plus grand philosophe belge du XXe siècle, Jean Ladrière, que j'ai eu comme professeur, disait cette phrase très simple, on ne reconnaît une situation comme éthique que lorsque précisément on est impliqué dedans.
Mmh.
Or, c'était un grand logicien, c'était quelqu'un qui pouvait vous pondre des théories énormes, que tout le monde respectait. Mais
ça va avec ce que je viens de vous dire, hein, en fait.
Exactement.
Je n'ai pas lu ce philosophe, mais finalement, ça veut dire la même chose.
Ça veut dire que vous êtes au moins aussi grand philosophe que lui.
Non, ça n'est pas ce que je voulais dire, Giuseppe. Ça n'est pas ce que je voulais dire.
Non,
mais,
j'ai tout à fait compris.
Mais voilà, ça fait partie enfin, en tout cas pour moi, qui suis très libre, un être très libre, qui est toujours considéré que ma liberté passait avant tous les... tous les dogmes, tout ce qu'on pouvait pondre, tout ce que avaient pondu. Moi, les hommes, ils peuvent pondre ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense moi, ce que je ressens moi. Avec grand plaisir, nous échangeons ce soir, Giuseppe, avec l'envie d'en débattre et de s'ouvrir aux autres. Mais toutes ces questions-là sont très personnelles. Et comme vous disiez, à partir du moment où on est... concerné, je pense qu'en plus la dimension de tout ça change. Vous voyez, on peut en parler comme ça le matin au café, mais quand on est concerné, ça change. Et vous l'avez été.
C'est ça, mais je crois que c'est ça un peu le but de mon intervention, c'est que ceux qui pondent les lois, ben, est-ce qu'ils sont sont concernés. D'un autre côté, ils sont obligés de pondre une loi qui est universelle. Mmh. Alors, nous venons de dire tous les deux que c'est un problème avant tout personnel.
Mmh. Mais vous voulez Allez-y, pardon.
Je crois que le grand paradoxe est là. C'est qu'il n'y a pas vraiment une solution à ce problème. Mmh. Maintenant, on ne peut pas non plus permettre l'euthanasie pour un oui, pour un non. Mmh. On ne peut pas non plus justifier certains suicides sous couvert de l'euthanasie, parce que ça existe, évidemment. Mmh. Hein, faut pas croire. Il y a des gens qui sont dépressifs, alors ils arrivent à convaincre trois psychiatres que la vie ne vaut pas la peine, et voilà, on autorise. Mmh. Et je crois que, c'est une question qui est donc juridique, psychologique, et j'ai presque envie de dire philosophico-théologique.
Oui, complètement.
Voilà. Et je sais que, avant l'intervention, je me suis dit, est-ce que je vais parler de l'aspect théologique ? Moi, je crois que c'est important. Voilà. Alors, j'ai conscience que peut-être certains de mes propos ont pu choquer des personnes, c'est pas du tout le but.
Mais ça n'est pas le but, peu importe, je vous dirais.
Peu importe, parce que...
Et je vais rajouter à ce que vous avez dit, que si ceux et celles qui votaient les lois, à chaque fois, se sentaient concernés, ce ne serait pas autant le chaos en Belgique comme en France, mon cher ami. Donc, j'ai peu de confiance en celles et ceux qui votent aujourd'hui les lois, en tout cas en France. On va marquer une pause, Giuseppe, et on va se retrouver tout de suite après. D'accord ?
D'accord,
à tout de suite. 23h28 sur Europe 1, et depuis quelques minutes, nous échangeons avec Giuseppe autour de l'euthanasie. D'ailleurs, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en tout début d'intervention, mon cher Giuseppe, c'est que les amis de votre mère n'ont par la suite pas souhaité, ou officiellement pas pu, ce que ça veut bien dire, assister aux funérailles de leur ami. Ça montre l'onde de choc qui peut être provoquée par... justement le choix de mourir comme ça et le choix de convier celles et ceux qui avaient sûrement un avis sur l'euthanasie mais qui sont venus là et qui ont été sans doute pour la plupart meurtris par ce moment-là.
Probablement. J'ai même eu une personne qui en entrant dans la pièce m'a regardé avec un air de reproche, mais vraiment de reproche.
Pourquoi ?
Je ne sais pas.
Parce que vous étiez peut-être l'héritier et que... vous n'avez pas pensé à ça ? Que vous étiez sûrement l'héritier et que ce regard de réprobation peut-être chargé de ça. Tu vas hériter, donc tu as laissé ta mère prendre une décision comme celle-là, donc ça t'arrange bien. Vous n'y avez pas pensé ?
Eh bien, si. Alors, c'est très facile d'y répondre. Tout d'abord, il n'y avait aucun héritage en jeu, aucun, que du contraire. Mais ce n'était pas le cas de ma grand-mère, qui a survécu donc à ma maman et qui est morte il y a quelques semaines. Et là, je voudrais quand même aussi témoigner, parce que c'est une expérience violente. Donc, un dimanche, vers 1h15 de l'après-midi, je me rendais au travail, puisque je travaille parfois le week-end. Je reçois un coup de téléphone de la maison de repos, c'est le médecin urgentiste qui me dit « Votre grand-mère va très mal, il n'y en a plus pour longtemps, il faut prendre une décision. » Je lui dis « Écoutez, madame, je suis en voiture, vous me prenez de court, je suis à 10 minutes de la maison de repos, si vous voulez, je viens. »« Non, je n'ai pas le temps, je suis urgentiste, vous devez prendre la décision. » À ce moment-là, je pose la question « Mais quelle décision ?» Puisque il n'y a pas de demande d'euthanasie active. Elle me dit, voilà, moi je peux artificiellement la conduire à l'hôpital, la maintenir sous machine, elle ne va pas tenir plus de 2 semaines. Ou bien, si on ne fait rien, elle mourra prochainement. Eh bien, je peux vous assurer que dans ma tête, la première réaction que j'ai eue dans ma tête, qu'est-ce que je dois répondre et qu'est-ce qu'un juge va me dire selon telle ou telle réponse ? Il va me dire « Ah, mais voilà, vous avez laissé mourir votre grand-mère parce que vous vouliez l'héritage. » Bon, première chose, l'héritage, je l'aurais eu 2 semaines après. Je veux dire, parce qu'elle était dans un état pas possible. Alors, j'ai eu quelques amis confidents à qui j'ai montré une des dernières photos que j'avais prises d'elle. Ils m'ont dit « Ben, on voit bien que c'était la fin. » Mais vous avez tout à fait raison, Olivier. Quand la personne qui doit prendre une décision ou autoriser une décision ou laisser faire, je vais dire,
oui,
eh bien, ça peut engendrer effectivement un blocage héritage.
Ça peut bloquer, d'accord.
Oui, c'est-à-dire, si on... Alors, il faut comprendre mes propos. Si on prouve que j'ai réussi, alors c'est pas le cas de ma grand-mère, attention, à obtenir l'euthanasie en tant qu'héritier, et qu'on peut prouver que c'était dans le but de recevoir un héritage anticipé, eh bien, un juge peut très bien dire « vous n'aurez pas l'héritage ». Alors, allez prouver que c'est dans un acte de charité.
Oui, d'accord.
Alors pour l'histoire, pour ceux qui auraient des soupçons, quand je suis arrivé à la maison de repos, ma grand-mère est morte devant moi 1h15 après. Donc, et les infirmières qui étaient là venaient tous les quarts d'heure prendre sa pulsation parce qu'elle me disait « elle va partir aujourd'hui, ça se voit, bon ». Alors à quoi ça aurait servi de la tenir 2 semaines en plus sous machine? Je ne
Rien.
Sais pas.
Pas grand-chose en tout cas, je pense.
Alors bien sûr que probablement, il y aura peut-être un juriste qui, en entendant l'émission, va dire « mais si, mais attention, c'est un... » Mais non. Quand vous êtes en voiture et que vous avez exactement 3 minutes pour prendre une décision, c'est dramatique, je veux dire, c'est une chose horrible.
Mais voilà encore, on rentre à nouveau dans...
C'est inhumain.
Oui. Et on rentre encore dans le jugement, dans le regard de l'autre.
C'est ça. Mais personne ne m'a jugé. Personne. Bon, d'abord, qu'on soit de nouveau bien clair, il n'y a pas eu euthanasie active. Ça, je veux dire, parce qu'en Belgique, il faut signer un certain nombre de papiers, il faut 3 médecins qui attestent, il faut une demande en liberté et conscience. Or, ma grand-mère était totalement inconsciente. Voilà. Donc, le médecin était très clair avec moi, mais c'est ce côté « j'ai pas le temps ». Voilà.
J'ai pas le temps, oui.
Mais je comprends, c'est une urgentiste. Vous imaginez le poids et le risque d'accident, vous êtes en train de conduire. Et vous vous dites en même temps, oui, je dois prévenir mon patron que je ne pourrais pas venir, ceci, cela.
Dernière question, Giuseppe, on va être obligé de conclure. Cela vous a-t-il renvoyé vous-même à... une décision très personnelle sur vous, sur le jour où, si cela bien évidemment arrive, hein, parce que ça n'est pas obligé d'arriver, on peut très bien partir dans son sommeil, on peut très bien partir paisiblement. Mais bon, il y a quand même une chance que cette option se présente à vous. Est-ce que ça vous a renvoyé à cela ?
C'est une très bonne question, mais j'ai presque envie de vous répondre que moi je pense qu'on ne peut répondre à cette question que quand on est tout près du problème. C'est très facile de dire aujourd'hui oui, je vais refuser l'acharnement thérapeutique, oui, je vais demander une piqûre, oui, je ne sais pas. Parce que moi petit, j'ai connu beaucoup de cas de cancer sur lesquels on s'est acharné. Bon, j'ai un oncle qui est un éminent professeur en oncologie. Moi, j'ai vécu cet acharnement. J'ai jamais compris le but de l'acharnement, jamais. Jamais je ne l'ai compris. Alors maintenant, c'est difficile de répondre. Voilà. Si moi, j'étais dans un cas où on me dit, voilà, vous pouvez encore vivre 2 jours, ça ne sera pas sympa, mais vous pouvez encore vivre 2 jours, ou bien on peut terminer tout de suite. Mais je crois que quelque part, on a toujours cette idée de l'infini, on se dit, je vais encore vivre les 2 jours.
Ben oui.
Je crois. Donc.
Plus l'idée de l'espoir, je pense, que de l'infini, non ?
C'est ça. Pour autant qu'on soit conscient.
Pour autant qu'on soit conscient, bien évidemment.
Voilà. Mais bon, dans le cas de. Je reprends de ma grand-mère, elle était totalement inconsciente, mais elle ne se serait plus jamais réveillée, en fait.
Oui.
Donc dire au médecin, oui, bah, écoutez, faites-en une plante, c'est magnifique. Sachant que dans les 2 semaines maximum, c'était fini. Bon, maintenant, c'est vrai que peut-être en 2 jours, on a peut-être encore le temps de faire beaucoup de choses, je ne sais pas, probablement.
Bon,
on a peut-être le temps d'appeler des gens. On a peut-être le temps d'appeler des gens en disant voilà, je te demande pardon parce qu'un jour je t'ai dit ça ou je t'ai fait ça. C'est vrai que non. Alors là, je pense que si on m'annonçait un cancer, je ne suis pas du genre à m'acharner. Mais ouais. On n'en sait rien.
On n'en sait rien, je crois.
Non. Donc ça, je ne vais pas vous répondre. Là, je vous renvoie à Jean Ladrière. Mm-hmm. C'est quand on est dans la situation que.
Et, voilà. Et je renvoie à celles et ceux qui ont la responsabilité de voter cette loi, à leur responsabilité de considérer que cette liberté ne leur appartient pas et nous appartient à chacun et à chacune, et qu'ils doivent impérativement voter cette loi à l'unanimité. Parce que ça n'est pas une question qui les concerne, c'est une question qui concerne chacun et chacune d'entre nous, encore une fois. Merci Giuseppe pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. C'était très intéressant et très plaisant d'échanger avec vous. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau.
Mais j'espère, en tout cas j'apprécie beaucoup ce que vous faites et je tiens à vous féliciter de votre qualité d'animation alors que vous n'êtes pas psychologue de formation.
Non.
Oui, avant c'était mon Sophie Peters et j'avoue qu'au début, quand j'ai su que c'était vous, j'ai dit tiens c'est bizarre. J'étais un peu dubitatif et voilà, je tiens à m'en excuser publiquement. J'ai douté de vous, mais j'aurais pas dû.
Mmh. Mais vous n'étiez pas le seul, voilà. Ne vous inquiétez pas.
Non, je sais, j'ai lu des commentaires sur Facebook,
oui,
mais
qui n'étaient pas très gentils. Mais le doute fait partie aussi des choses qui nous font progresser et avancer. Et donc, j'ai toujours aimé le doute, moi. D'ailleurs, je le dis à chaque fois, c'est le doute qui m'a toujours fait avancer dans la vie. Donc, douter de l'autre amène. Alors, il faut que quand on doute de l'autre, on ait cette curiosité de savoir si on doute bien ou on doute mal. Voilà. Et la preuve que vous doutiez, mais que vous avez quand même écouté pour voir où tout cela nous menait.
C'est ça, et franchement, moi je suis vraiment, mais vraiment ravi d'avoir échangé avec vous.
Merci beaucoup.
Parce que vous posez vraiment des bonnes questions, et cette intervention m'a pas mal libéré de beaucoup de choses.
Tant mieux.
Même si j'ai conscience que j'ai dit des choses qui peuvent conduire à fâcher certaines personnes. Mais bon, j'en prends la responsabilité. Voilà,
complètement.
Voilà, je pense que c'est trop important par rapport à ce point de vue qui n'est que légal d'apparence. Mm-hmm. Mais il y a tellement d'autres implications.
Mm-hmm. Voilà. Complètement. Merci, Giuseppe.
Je vous en prie. Bonne continuation.
Bonne fin de soirée. Merci. Et
vous aussi,
on embrasse toute la Belgique. Au revoir.